qui est le plus intéressant, c'est d'étudier le contact entre les deux, c'est-à-dire entre d'un côté des pouvoirs qui essaient de se doter d'un certain nombre de moyens et de mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour produire la ville, la contrôler, en orienter les usages, en favoriser un certain nombre au détriment d'autres, etc., etc. Et puis de l'autre côté, ce que font les gens, est-ce qu'ils se laissent ou pas embrigader par les usages? Est-ce qu'au fond, les politiques, la planification, l'organisation de l'espace, l'urbanisme ont la main sur la ville? Au fond, qui fait la ville? Qui a la main sur l'espace urbain? Et comment, en fait, tout ça est une question de dialectique, hein, entre une question de rapport de force, même par certains côtés, entre ces pouvoirs d'un côté et ces habitants de l'autre. Donc on travaille aussi beaucoup sur ces questions-là, sur des objets concrets. Alors les objets concrets, c'est par exemple les quartiers en difficulté, les quartiers dont on parle, les quartiers de la politique de la ville. Hein, c'est des objets extrêmement intéressants à étudier scientifiquement. Pour pouvoir comment s'y affronte un certain nombre de jeux de pouvoir. Quand aujourd'hui on va dans ces quartiers pour démolir un certain nombre de choses, ça c'est quand même une marque de pouvoir, d'avoir la capacité, le droit de se donner le droit, s'octroyer le droit de démolir et en démolissant de gommer des histoires individuelles, des constructions personnelles, familiales, sociales dans ces quartiers. Donc on travaille par exemple sur les quartiers de la politique de la ville, on travaille aussi beaucoup sur tout ce qu'on appelle les territoires périurbains, donc l'habitat pavillonnaire. Au fond, tous ces espaces qui se sont développés, grosso modo, en France depuis l'après-guerre, hein, qui sont souvent des espaces déconsidérés du point de vue de l'urbanisme, de l'architecture. Enfin, vous savez, c'est des espaces de la maison Phoenix, de la maison à 100 000 euros, des maisons identiques. Ces espaces dans lesquels, au fond, il ne se passe rien. Les gens vont juste là pour dormir, soi-disant, etc. Hein. Il est évident que ça, c'est vraiment une représentation, une représentation que les pouvoirs et que le pouvoir applique sur les espaces périurbains. Par définition, ces espaces sont déconsidérés. Alors, comme par hasard, habitent dans ces espaces plutôt des catégories modestes, plutôt des catégories au maximum moyennes. Et ça participe beaucoup de cette tentative de décrédibilisation des espaces périurbains, qui est une tentative ancienne. Au fond, ça fait longtemps qu'on essaie de dire que c'est pas très malin d'aller habiter dans le périurbain parce que c'est pas très beau, parce que ça pollue, parce que etc., etc. Et pourtant, les gens continuent à y aller. Comme quoi, on peut pas faire la ville contre les gens. On peut pas faire la ville contre les pratiques. On peut essayer. Mais c'est difficile.
Est-ce que c'est une question de manque de logement aussi qui fait qu'on n'a pas le choix au bout d'un moment?
C'est ça qui nous explique.
Et si vous voulez, mais vous avez totalement raison. Je vais vite là pour essayer de poser un peu des grands cadres. Ce sur quoi on travaille, c'est tout ça. Et c'est ces rapports. Et par exemple, effectivement, une des choses qui explique le développement du périurbain, c'est le manque d'offres de logements accessibles dans une partie des centres-villes, mais pas seulement. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que quand on va enquêter auprès des individus et qu'on leur dit, mais au fond, où est-ce que vous avez envie de vivre? Quand même, assez souvent, ils ont envie de vivre dans le périurbain. C'est pas qu'une question d'offres de logements accessibles. C'est aussi une question d'envie d'habiter dans ce type d'espace. J'y reviendrai. Mais je pense que les interventions qui me succéderont y reviendront aussi. Donc demain, Géraldine Molina viendra vous parler de la question des représentations de la ville. Oui, c'est une doctorante. Elle termine sa thèse. Elle achève sa thèse. Jeudi, demain. Elle achève sa thèse sur un sujet intéressant, au moment où on parle beaucoup du Grand Paris. Elle a travaillé une analyse des discours des grands architectes français contemporains, Nouvelles, Porzamparc, Castro, Panerai, etc., etc. Au fond, elle a essayé de mettre en rapport les discours et les actes, quoi, hein, et en particulier la place qu'occupe dans les discours toute une série de références aux habitants, qui sont évidemment au cœur de toutes les démarches, mais qui sont quand même assez souvent totalement absentes de toutes les réalisations. Et donc elle soutiendra sa thèse bientôt, mais demain elle ne viendra pas vous parler de ça, ceci dit vous pourriez en parler si ça vous intéresse. Et puis vendredi après-midi, Marie-Christine Jaillet viendra vous parler plutôt de la question des évolutions des modes de vie dans la ville.
Je pense qu'ils ne connaissent pas tous Marie-Christine Jaillet.
Oui, mais ils apprendront à la connaître. Mais donc plutôt sur une entrée, mode de vie, mode d'habiter, etc. Et puis du coup, moi, par rapport à ça, je suis censé un peu poser des cadres spatiaux,
Ce que je voulais dire sur Marc Sinjaye, c'est que ce qu'il a présenté, Géraldine qui passe son doctorat avec un thème, Marc Sinjaye, c'est la directrice du laboratoire.
Entre autres.
Entre autres.
Entre autres.
Voilà, donc c'est encore autre chose, quoi. C'est plutôt une synthèse, on va dire.
Marie-Christine, elle, voilà, vous permet. Comment vous dire ? Enfin, vous verrez, je ne peux pas expliquer.
Voilà.
Je peux pas expliquer.
Marie-Christine.
Mais c'est une certaine chance que de la voir si elle vient vraiment.
Parce que ça fait partie de Marie-Christine Joyeux, si elle vient vraiment.
Bon, voilà, et du coup, moi, je suis censé poser un certain nombre de cadres. Alors, bon, moi, j'ai plutôt imaginé cette séance de manière un peu. Enfin, je me suis dit, on est avec des quatrièmes années, ou presque, quoi, hein, au moins. Au moins. Et donc, on est plutôt, du coup, sur une logique un peu séminaire, discussion, échange. Hein. Donc, merci de m'interrompre comme vous l'avez fait. C'est vraiment, enfin, comme ça que j'ai pensé construire les choses, quoi. Il faut que les choses soient un peu claires. À la fin, plus qu'au début. Donc, si je ne suis pas clair, ou si vous comprenez pas tout à fait ce que je veux dire, n'hésitez pas à me demander de repréciser, évidemment. Avant de commencer, peut-être, dernière chose. Évidemment, tous ces travaux qu'on conduit sur les modes de vie, sur les modes d'habiter, sur les tentatives d'organiser la ville, évidemment, c'est les travaux qui nous conduisent, puisqu'on est plutôt en sciences sociales, à mettre en œuvre des méthodologies d'enquête, des méthodologies d'observation, des méthodologies d'analyse. Hein, on ne parle pas simplement, comment dire, comme ça, de tel ou tel sujet, parce qu'on a un peu lu sur la question ou parce qu'on y a un peu réfléchi. Mais évidemment, à chaque fois, on se donne la peine d'aller enquêter. Alors enquêter, ça veut dire en sciences sociales, bien rencontrer les habitants. Ce qu'on ne fait pas si fréquemment que ça. On ne fait pas si fréquemment que ça.
Vous faites ça comment ? Par des enquêtes ?
Donc ça, très, très, très clairement, hein,
le fait en mettant... marketing, je sais pas, vous rigolez.
Non, mais on le fait en mettant en œuvre des méthodologies d'enquête. Alors, il en existe plusieurs grandes familles. Hein. Il y a l'observation, il y a les entretiens, il y a les questionnaires. En fonction de ce que sont les objectifs de l'enquête, en fonction du temps dont on dispose, etc., etc., on met en œuvre telle ou telle méthodologie. Le plus souvent, on travaille beaucoup, nous, à partir d'entretiens. Hein, le principe de l'entretien, c'est que vous avez une personne en face de vous et vous avez une heure pour discuter avec elle. Ben, par exemple, du rapport qu'elle entretient avec son logement, son espace de vie, son quartier, etc., etc. Ce qui permet d'apprendre beaucoup de choses, beaucoup de détails, de laisser les gens raconter, s'exprimer assez librement, d'accord ? Ça signifie qu'on pense que l'utilisation de ce type de méthode présuppose que ces gens en savent plus que nous sur leur propre vie, ce qui paraît aller de soi. Mais quand on utilise par exemple le questionnaire, on va voir des gens avec des questions déjà préformatées. Donc là, on ne leur laisse pas la possibilité de davantage s'exprimer. Donc, tous les travaux tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, bien sûr, est plus ou moins, mais plutôt plus, appuyé sur des travaux d'enquête. Pour vous donner un exemple très, très récent. Pour vous donner un exemple très récent, on est en train là de finaliser une étude qui porte sur, vous savez, on a construit beaucoup à Toulouse ces dernières années de résidences fermées, sécurisées, qui sont à peu près toutes identiques. On en a construit beaucoup au nord de Toulouse, Bordeaux, quartier Bordeaux Rouge notamment. On en a construit pas mal au sud de Toulouse, Saint-Simon. Et puis on en a construit un petit peu partout dans la ville. Elles sont toutes identiques, elles se ressemblent à peu près toutes. Elles ont des piscines, elles ont des petits espaces extérieurs. Elles sont clôturées, fermées. C'est une forme urbaine assez nouvelle. Hein, et donc Toulouse a quand même non seulement la paternité, mais en plus... c'est quand même la ville de France dans laquelle on en retrouve le plus, en tout cas parmi les villes de France de cette taille-là. Et donc, on a travaillé là avec un groupe d'étudiants sur une trentaine de ces résidences dans Toulouse. Et on a fait 600 questionnaires, donc auprès de 600 personnes, pour savoir comment ils vivaient, est-ce que les logements tels qu'ils étaient leur convenaient, est-ce qu'ils avaient entrepris, enfin, comment se les appropriaient-ils, est-ce qu'ils avaient entrepris de transformer telle ou telle partie de leur logement, s'ils trouvaient que c'était trop cher, pas assez cher. Quelles étaient les relations de voisinage, enfin, etc., etc., etc. Voilà. Très concrètement, comment on fonctionne, hein. On fonctionne toujours par des enquêtes. Enquêtes auprès des habitants, bien sûr, mais enquêtes aussi auprès des acteurs de la ville.
Donc, est-ce que vous faites un échantillonnage ?
Là, par exemple, on a échantillonné dans la mesure où on a d'abord choisi des résidences construites entre 2006 et 2008, premièrement. Deuxièmement, parce qu'on les a choisies dans un certain nombre de quartiers, 7 au total. Ensuite, on a échantillonné en essayant d'équilibrer au vu de la composition de chacune des opérations, les enquêtes conduites dans les T1, T2, T3, et éventuellement plus rarement dans les T4 parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis ensuite, à l'intérieur de cet échantillonnage-là, on a essayé d'équilibrer, plus que d'échantillonner, on a essayé d'équilibrer pour rencontrer des personnes plutôt plus jeunes, plutôt plus âgées, plutôt avec des enfants, plutôt sans enfants, de manière à ce que l'échantillon, à la fin, soit, je ne vais pas dire représentatif, parce qu'à mon sens, ça n'a pas beaucoup de sens que de dire représentatif. Mais je dirais en tout cas équilibré et crédible. Voilà. Hein. On est, nous, sur une position scientifique qui est plutôt une position relativiste. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'on peut parler d'échantillons représentatifs ou pas représentatifs. Je pense avant tout qu'il y a des méthodes d'enquête, que ces méthodes d'enquête, elles doivent être utilisées honnêtement, elles doivent être présentées à ses auditeurs quand on présente des résultats d'enquête, et qu'à partir de là, on peut juger sur pièce. Mais la représentativité d'un échantillon, elle est toujours, toujours discutable. Hein, forcément toujours discutable. Des statisticiens un peu sérieux disent, vous savez, si vous faites une enquête par questionnaire, à moins de 3000 questionnaires, vous n'arrivez pas à faire un échantillon représentatif.
Bon. Et donc vous n'en êtes pas là?
Moi, je considère que... je considère que ça n'a pas forcément de sens de se poser ces questions. Ce qui a du sens, c'est d'aller sur le terrain, de multiplier les biais, les manières d'entrer, de faire des enquêtes par questionnaire, de faire des enquêtes par entretien, de multiplier les études sur un même objet. Je pense que ça suffit largement pour rassembler des éléments, des matériaux qui, une fois qu'on les a rassemblés, on les recoupe. Et le recoupement fait qu'on se rend compte ensuite de si c'est crédible ou si ça ne l'est pas, si ça tient, si ça ne tient pas. Quoi. Hein, voilà. Et puis surtout, on présente ces méthodes quand on va présenter quelque part ces résultats. Oui. Oui. Et après, on laisse les gens juger du fait que ce soit crédible ou pas crédible. Voilà. Bon, voilà un peu pour la présentation. Alors du coup, moi, j'avais prévu d'aborder un sujet qui, le titre de l'intervention, je ne sais pas si je peux donner un titre, mais est un peu différent de celui qui était présenté, quoi, qui était un peu rapide. Hein. Plus que faire l'histoire de Toulouse, ce que je voudrais, c'est essayer de vous expliquer comment on est passé en matière d'histoire urbaine, à Toulouse notamment, mais bien ailleurs aussi, petit à petit, de la ville à l'urbain. C'est-à-dire, comment on est passé de la ville à l'urbain, et qu'est-ce que ce passage de la ville à l'urbain change en termes d'espace, en termes de mode de vie, et puis en termes d'enjeux, en particulier d'enjeux sociopolitiques. Donc voilà un petit peu comment j'ai construit cette intervention qui consiste à dire, Toulouse comme un exemple du passage de la ville à l'urbain, d'abord en présentant quelques vieilles cartes, quelques vieux schémas, c'est toujours utile, hein, ça permettra d'illustrer quelques faits majeurs. Puis en s'arrêtant sur un certain nombre de notions, d'idées qui transparaissent de l'évolution, enfin, qui permettent d'analyser, de comprendre, voire de critiquer l'évolution des modes de vie. Et là, je crois que mon propos, il sera simplement introductif à ce que pourra ensuite développer davantage Marie-Christine Jaillet vendredi après-midi. Et je voudrais terminer par un certain nombre d'enjeux, présentation d'un certain nombre d'enjeux et de leurs évolutions. Bon, de manière à rappeler, et je l'ai dit tout à l'heure, hein, que quand on parle d'espace urbain, quand on parle de ville, on n'est évidemment pas sur des espaces neutres, on est sur des territoires, sur des lieux qui ont une symbolique sociopolitique, une symbolique politique forte. Et que donc l'évolution de la ville, de ses formes, des usages qui sont appliqués, c'est pas quelque chose de neutre, c'est pas quelque chose de... sans importance, évidemment, c'est quelque chose qui, socialement, politiquement, dit beaucoup d'une époque, interroge, et parfois même permet soit d'espérer, soit de s'inquiéter des évolutions sociales en cours ou à venir. Quoi. Hein? Donc je terminerai par les enjeux. Bon, il va de soi que vous m'arrêtez quand vous voulez. Quoi. Notamment si vous trouvez que je parle trop vite.
Oui.
Mais c'est enregistré, donc ça va. Vous pourrez. Donc, commençons par parler, alors à partir de l'exemple toulousain, de cette évolution de la croissance urbaine. Bon, je vais reprendre un certain nombre de choses assez connues, mais je pense qu'il faut quand même poser un certain nombre de cadres. Une bonne partie des villes européennes, une bonne partie, pas toutes, a pour origine des villes de la période romaine, ou très marquées par la période romaine, on va partir de là. Donc ça ici, cette carte bien visible de tous, représente en fait Toulouse à l'époque antique, Toulouse à l'époque antique aux alentours du 1er siècle après Jésus-Christ. Pour vous donner une idée des dimensions et de la taille, cette rue-là, cette rue-ci, là, c'est la rue Saint-Rome aujourd'hui. Donc on a au fond un des deux axes majeurs de la ville antique qui est la rue Saint-Rome. Et on a donc une ville à l'époque qui se limite à la rive droite, au fond qui ne correspond même pas aujourd'hui à ce qu'on appelle le centre-ville. Donc on a une ville qui est très ramassée, on a une ville qui est organisée à partir de deux axes, un axe nord-sud et un axe est-ouest. Bon, jusqu'ici, tout ça est très classique en matière de fondation urbaine. Et on a évidemment une ville qui est entourée, qui est limitée, entourée de murs, limitée, circonscrite dans l'espace. Et ça, c'est un élément extrêmement important. La ville, telle qu'elle se met en œuvre historiquement en Europe en particulier, est une ville fermée, limitée, repliée sur elle-même. Ça implique deux choses. Ça implique que c'est un espace dense, voire très dense. Autrement dit, il y a beaucoup de personnes qui habitent dans peu de mètres carrés, dans peu de kilomètres carrés. Tout le monde est très serré. Si on devait reprendre une image, tout le monde est très serré. C'est une ville de la promiscuité, de la proximité, premièrement. Et deuxièmement, ça implique qu'il y a une différenciation nette, très nette, entre ce qui est la ville et le reste. On sait, à cette époque, dire qu'est-ce qu'une ville ? Ah ben, une ville, c'est ce qui est là, à l'intérieur des murs. Le reste, ah ben, le reste, c'est évidemment pas la ville. Donc au fond, qu'est-ce que Toulouse ? Ben, c'est ça. Et puis le reste, eh ben, c'est autre chose. Le reste, c'est une série d'espaces, de territoires qui entourent la ville, qui sont très largement polarisés, dominés par la ville, au sens où on y cultive un certain nombre des choses qu'on vient vendre dans la ville, au sens où une partie des propriétés de la propriété de la terre, des espaces alentours, appartient à des gens qui sont là, au sens où, bien sûr, l'ensemble des gens qui vivent autour de la ville, si jamais le besoin s'en fait sentir, viennent en ville pour y être protégés. On se retrouve tous en ville, on ferme les portes, et puis les envahisseurs peuvent arriver. Bon, et on se défend. Ça, c'est la ville antique. Je passe sur le fait que, bien sûr, à Toulouse comme ailleurs, il y a des effets de site, et que cette ville, vous avez bien remarqué qu'elle choisit pas, elle ne choisit pas, pardon, de se localiser n'importe où, mais évidemment, bon, elle se localise en bord d'un fleuve, et en particulier à un endroit où le fleuve peut être traversé quasiment à sec, et déjà, elle se localise aussi à proximité, elle se localise dans des espaces qui lui permettent de garantir l'accès à l'eau, et notamment au travers d'aqueducs. Donc, le site n'est évidemment pas neutre. Il y a les caractéristiques naturelles du site impactent le choix, jouent sur le choix d'implantation. Et puis, la forme de la ville, à cette époque, n'était évidemment pas neutre. Elle signifie quelque chose. Elle signifie notamment que, comme beaucoup de villes de cette période, les préoccupations militaires, les préoccupations de défense, les préoccupations d'organisation militaire de l'espace, d'organisation efficace, ont prévalu. On retrouve ça bien sûr avec la limite, et on retrouve ça bien sûr avec le quadrillage. Vous avez ici les deux axes principaux qui se coupent à angle droit, et puis la plupart des autres grands axes qui se coupent eux-mêmes à angle droit. On est bien sûr, avec le quadrillage, le principe du camp, le principe d'une gestion, d'une organisation de l'espace qu'on peut reproduire partout, quelle que soit la topographie, quelles que soient les coutumes locales, quelles que soient les manières d'habiter préexistantes, on peut appliquer le quadrillage partout. Et cette forme urbaine-là, finalement, du quadrillage, on la retrouve jusqu'à aujourd'hui. N'importe quel camp de réfugiés dans le monde aujourd'hui est organisé sur le mode du quadrillage. On la retrouve évidemment dans bon nombre de villes récentes dans le monde, notamment les villes américaines, qui sont organisées sur le modèle du quadrillage. Bon nombre d'extensions urbaines, notamment 19e, ont repris le modèle du quadrillage. L'Ensanche à Barcelone, par exemple, etc., etc. Cette forme urbaine du quadrillage, elle a survécu. Elle a survécu à cette période. Par contre, cette forme urbaine de la limite, on va voir qu'elle ne va pas survivre, à l'évolution urbaine. Oui ?
Oui, je me demandais si justement ce quadrillage était vraiment pour un souci militaire uniquement, ou si c'était aussi un souci de répartition, urbanistique, si je peux dire ce mot-là, enfin, pour une circulation aussi, enfin, pour...
Si vous voulez, les deux sont un peu inséparables, ouais. Mais ce qui est très clair, c'est qu'on a avec le quadrillage quelque chose qui permet, ça permet de gagner du temps, le quadrillage. Le quadrillage, ça s'applique, c'est applicable partout, c'est appliqué partout. On arrive quelque part, on ne se pose pas la question de savoir si il faudrait organiser plutôt comme ci, plutôt comme ça. On pose un quadrillage.
C'est
donc ça.
Que je me posais la question, c'était pas aussi une question de circulation.
L'idée, c'est de maximiser l'organisation de l'espace. Mm-hmm. Le quadrillage, c'est très vite organisé, ça se fait très vite. Mm-hmm. Et ensuite, au quotidien, bah, effectivement, c'est une manière de vivre et de fonctionner qui simplifie beaucoup les choses. Hein, c'est identique partout, on se retrouve facilement, quelle que soit la... Je veux dire, quand on a l'habitude de fonctionner dans des villes quadrillées comme celle-là, ben on se retrouve, on peut aller dans n'importe quelle ville du monde qui est organisée de la même manière, on a des manières de s'organiser qui fonctionnent partout, on a des types de repères qui fonctionnent partout. Donc ça, il y a un souci d'efficacité urbanistique. Le quadrillage, c'est très lié jusqu'à nos jours à cette question de l'efficacité urbanistique, du contrôle de l'espace. Et c'est très lié aussi jusqu'à nos jours avec cette idée de gommer, de supprimer toute aspérité ou un maximum des aspérités de la vie urbaine. Il y a des passages très intéressants sur le quadrillage dans un ouvrage qui est fondateur, à mon sens, enfin, extrêmement intéressant en tout cas, qui s'appelle « La conscience de l'œil » de Richard Sennett. S-E-N-E-T. La conscience de l'œil. Hein, vous y trouverez des passages extrêmement éclairants sur le quadrillage et la place du quadrillage dans l'histoire urbaine. Vous disiez ?
Non, c'était un principe de rationalisation.
Oui, on est sur cette idée de rationalisation, de lissage, de contrôle. On est plutôt avec le quadrillage du côté de l'ordre que du côté des pratiques. On est plutôt avec le quadrillage du côté du pouvoir que du côté des gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Si tant est qu'il puisse y avoir une dichotomie un peu simpliste. Donc ça, c'est... Bon, au fond, voilà d'où l'on part. Hein, et au fond, on est ici, dans le cœur de cet espace-là. Quoi, enfin, très proche, en tout cas. Si on remonte, si on avance vite dans le temps, hein, au 15e siècle, voilà Toulouse au 15e siècle. Voilà Toulouse au 16e siècle. Bon, par rapport à ça, je veux dire, il y a un premier constat qui s'impose, c'est le fait qu'on a conservé le principe de la clôture. Il était présent là, il est présent ici. Alors bien sûr, ensuite, la ville s'est étendue. Au fond, la ville antique s'arrête ici. Hein. On voit bien que dès le 15e siècle, il y a eu une extension au nord, il y a eu une extension sur la rive gauche. On commence à voir un faubourg apparaître ici. Donc bien sûr, la ville s'est étendue. Mais les principes d'organisation de l'extension urbaine ne remettent pas fondamentalement en cause ce qui fait qu'on parle de ville. Hein, ce qui fait qu'on parle de ville, c'est que voilà, à cette époque-là, on peut encore dire qu'est-ce que c'est Toulouse ? C'est ce qui est compris à l'intérieur des murs de Toulouse.
Est-ce bon. Que c'était une fortification ?
C'est une fortification.
Hein. Qui a bougé finalement encore les murs.
C'est celle que vous voyez. Hein, c'est celle que vous voyez. Elle s'est étendue donc en particulier au nord là, mais c'est celle que vous pouvez voir aujourd'hui, ben, très 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 clairement là sur le comment. Sur les jardins Raymond VI, à côté des abattoirs, hein, le long de du boulevard Armand du Portal, à côté de l'université de droit, là. Hein, donc c'est, on parle de ces murs-là. Hein. Et donc, on a encore, donc, à cette époque, c'est-à-dire quand même, plus de 10 siècles après, hein, plus de 10 siècles après, c'est-à-dire pendant plus de 10 siècles, 15 siècles, la forme de la ville, la forme générale de la ville, n'a pas changé. La ville continue de se différencier clairement de son environnement urbain, de son environnement pardon, local, territorial. Bien sûr, elle s'étend, bien sûr, elle grandit, mais elle grandit relativement peu finalement en surface. Hein, en 15 siècles, on n'a même pas tout à fait doublé la surface. Donc c'est pas une croissance très importante. C'est pas une croissance très importante, les formes restent les mêmes, la densité à l'intérieur des villes, à l'intérieur de la ville, reste donc la même. Ben, on se rend bien compte hein, quand même, notamment là sur ce plan dessiné, hein, on imagine bien que dans tous les îlots, en particulier de la partie la plus centrale, on est là sur des formes urbaines extrêmement denses. On est sur des maisons relativement hautes, on est sur des maisons relativement étroites de façades, on est sur de l'habitat extrêmement serré qui permet de loger beaucoup de monde dans un espace relativement limité. Bon, il y a des extensions, notamment ici, qui ménagent encore de l'espace vide, mais on peut imaginer que si la ville grandit juste après, elle grandira d'abord en densifiant les espaces vides, mais elle grandira toujours au maximum à l'intérieur des murs. Et ce n'est finalement que de manière assez périodique et toujours relativement éloignée qu'on repousse les murs. L'enceinte en noir ici, là, elle date du XIVe siècle. Ça veut dire que pendant 14 siècles, on est resté avec uniquement cette enceinte-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière ça, il y a des manières de vivre la ville, de s'y comporter, qui sont restées assez largement identiques, assez largement stables. La représentation des pouvoirs dans la ville, leur localisation, les activités urbaines, l'artisanat, le commerce, les espaces religieux, tout ça a bien sûr évolué. Tout ça a bien sûr évolué, évolué fortement. La place de la religion s'est pendant un temps renforcée, puis progressivement affaiblie. Les pouvoirs n'ont pas toujours été les mêmes, mais fondamentalement, on est resté à l'intérieur de la ville sur la présence des mêmes fonctions urbaines. La forme est restée stable, les fonctions urbaines sont restées stables aussi. Bon, les fonctions urbaines, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est toutes les fonctions liées au pouvoir, toutes les fonctions liées au commerce, à l'économie, toutes les fonctions liées de près ou de loin à la culture, au savoir, à l'université, à l'art, toutes les fonctions liées à la religion. C'est évident que la ville, à cette époque encore ou à celle-là encore, reste un lieu de concentration des individus et de concentration des pouvoirs. Alors, si on continue d'avancer, on arrive à une période qui est le 19e. Alors, Toulouse, à la différence d'autres villes françaises, d'autres villes européennes, n'a pas vraiment connu, ni de manière ni avant le 19e, ni au 19e, une réelle et une forte industrialisation. Hein, on n'est pas à Toulouse, c'est une ville qui a un passé et qui garde des activités fortement industrielles. Bon, ça nous a pas. L'industrialisation n'a pas touché Toulouse comme elle a touché d'autres villes européennes ou d'autres villes françaises. Néanmoins, elle y a eu quand même un certain impact. Cette industrialisation, au fond, au 19e, elle se traduit par quoi ? Ben, elle se traduit progressivement par une accumulation toujours plus grande d'individus, certes dans les villes, mais de plus en plus autour des villes. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, pendant longtemps, la ville grandissait, hein, elle a grandi entre ces trois périodes, mais finalement, la forme est restée la même, Et puis, l'essentiel de la croissance s'est passé à l'intérieur des murs. Et ce n'est qu'au bout de 14 siècles qu'on a repoussé les murs pour en construire d'autres. Ce qui se passe aux alentours du 19e à Toulouse, un peu avant dans d'autres villes, un peu après si on va dans des villes plus petites, ben, c'est le fait que la croissance urbaine, premièrement, va s'accélérer. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus de personnes qui vont vouloir venir habiter dans les villes, premièrement. Et que du coup, très vite, ces villes-là, elles vont être complètement surpeuplées. On ne va plus pouvoir rajouter des populations. Il y a un seuil de densité qui, à un moment donné, ne peut plus être dépassé. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que petit à petit, ces populations vont se fixer, comme on voit, on commence presque à le voir apparaître ici au 15e, elles vont se fixer dans des faubourgs, autour des principales portes de la ville, puis les faubourgs vont devenir jointifs. Hein, là, on est autour de la place Saint-Michel, enfin, on est autour du quartier métro Saint-Michel aujourd'hui. Puis les faubourgs vont devenir jointifs, et puis les gens vont s'installer un petit peu plus loin, et puis encore un petit peu plus loin, jusqu'au moment où on va bien se rendre compte que les murs n'ont plus de sens. Les murs n'ont plus de sens. La ville est complètement étalée, diffusée, en tout cas commence à s'étaler, commence à se diffuser, commence à ne plus être simplement limitée, et donc ne plus être simplement définie par ces murs. Alors, il y a une des justifications à l'installation de populations dans les villes ou à proximité des villes, pour dire les choses un peu clairement, hein, pendant longtemps, les villes ont été des lieux de protection pour des populations qui vivaient autour. Il fallait des murs pour que, le moment venu, on puisse se réfugier dans les murs, fermer les portes et attendre que les envahisseurs soient partis, quoi. Bon, et puis au bout d'un moment, les techniques militaires ont progressé de telle manière que les murs sont devenus inutiles, quoi. Quand on a été capable de faire des boulets de canon qui détruisaient les murs ou qui passaient au-dessus, ça ne servait plus à grand-chose d'avoir ou de ne pas avoir des murs, premièrement. Et puis aussi, hein, au fur et à mesure de l'histoire et avec la période moderne, les batailles, hein, se sont de plus en plus déplacées loin des villes, hein, on a de moins en moins fait les sièges des villes et on a de plus en plus fait la guerre, vous savez, dans des champs en race campagne, en se donnant rendez-vous et en disant « Messieurs les Anglais, après vous, commencez ». Tout ça, c'est éloigné des villes. Hein. Donc très vite, la fonction militaire des villes a décru. Les murs ont eu moins d'intérêt, les gens, du coup, ont eu plus de facilité à venir s'installer hors les murs. Hein. Alors bien sûr, on est dans cette période d'accroissement général de la population. Mais dans des périodes où, d'une certaine manière, les conditions de vie s'améliorent, la population augmente, elle ne peut plus vivre seulement dans les campagnes, elle cherche à se regrouper autour des pôles de richesse, les pôles de richesse sont dans les villes, elle y est donc attirée, et les villes, ben, comme ça, commencent à partir du 19e, c'est le cas de Toulouse, hein, déjà avant, mais surtout à partir du 19e, à grandir hors les murs, autour des murs. Je crois que là, on a, dans l'intitulé que j'ai donné tout à l'heure, de la ville à l'urbain, on a une période clé qui est cette première industrialisation. D'accord ? On a, avec la ville industrielle, un premier élément qui enclenche le passage de la ville à l'urbain. Passage de la ville à l'urbain, c'est donc, à un moment donné, le passage d'une ville limitée, clairement définie, dense, siège des pouvoirs, à une ville qui commence à s'étendre, à s'étaler, où il n'y a plus forcément besoin de murs, qui n'a plus forcément besoin de murs pour se protéger, à l'intérieur de laquelle peu à peu le pouvoir militaire, la fonction militaire décroît, à l'intérieur de laquelle par contre tout ce qui relève de l'activité économique et en particulier de l'activité économique liée à l'industrialisation ou aux banques, tend à prendre de plus en plus de force, hein, de plus en plus d'importance. À partir du 19e, il devient de plus en plus difficile de définir, alors Toulouse c'est quoi? Ça commence où? Ça s'arrête où? Alors la facilité qu'il y a à Toulouse pour proposer cet élément de définition, c'est que Toulouse, vous savez, il y a en France un découpage administratif des territoires. Un des découpages de base, c'est la commune. La commune de Toulouse, elle est très grande. Alors pendant longtemps, l'urbanisation de la ville, elle est restée dans les limites de la commune de Toulouse. Donc, Toulouse, c'est quoi? C'est la commune de Toulouse. Mais il y a des communes qui sont beaucoup plus petites que Toulouse, où très vite, quand la ville et l'étalement et la croissance urbaine est sortie des murs, eh bien, très vite, la croissance urbaine, elle est arrivée sur d'autres communes. Et donc, on disait, Paris, c'est quoi ? Alors, c'est quoi Paris ? C'est Paris plus les communes autour. Les murs sont plus là. Où ça commence ? Où ça s'arrête ? Où ça finit ? Tout ça se met en place, enfin, cette transgression des limites urbaines se met en place à partir du 19e siècle et de l'industrialisation. Et finalement, ce courant-là ne va cesser de se renforcer au fil du temps, hein, et en particulier va s'accélérer au 20e siècle. Le passage de la ville à l'urbain, il commence à se jouer là et il s'accélère par la suite.
J'ai une question sur la mutation que vous avez décrite tout à l'heure, où la ville, dans son sens militaire, au 19e, le perdait pour son sens plutôt économique, industriel, notamment au niveau des banques et tout ça, mais au niveau de l'usage même de ce qui reste de l'ancienne ville, est-ce que ces choses-là migrent à l'intérieur de cette ancienne ville ou alors se développent en périphérie de cette ancienne ville, à ce moment-là ?
C'est-à-dire, qu'est-ce qui se développe ou migre ? Vous voulez dire
C'est-à-dire que donc le militaire, oui, entre guillemets, déserte la ville, le centre de la ville, de l'ancienne ville, et vous disiez qu'il va y avoir une mutation où l'industrie, le commerce, les banques, vont prendre, entre guillemets, le pouvoir dans ces villes-là, dans ces structures-là. Mais est-ce qu'elles pénètrent le centre de la ville, ou est-ce qu'elles se développent de la même manière que ça se développe à l'extérieur de ces remparts-là ? Est-ce qu'elles trouvent dans le symbole du centre de la ville, ou au contraire, elles profitent de, entre guillemets, la jeune modernité du faubourg et de ces choses-là ?
En fait, on a un double processus. On a un processus où on a d'un côté, mais la base est la même, on a un processus où on a d'un côté, pendant longtemps, si vous voulez, tant que la ville dense, est-ce qu'elle est entourée par des murs, en partie insalubres, difficiles à vivre, bruyantes, etc., etc., les espaces de l'aristocratie ou de la bourgeoisie vont avoir plutôt tendance à se développer aux marges de la ville existante, pas forcément sur les faubourgs, mais aux marges ici. Hein. Par exemple, à Toulouse, c'est évidemment tout ce qui se développe, après le quartier Saint-Étienne, autour du Grand Rond, toutes ces extensions urbaines là, hein, toutes ces extensions urbaines montrent bien comment, à un moment donné, des catégories de bourgeois enrichis, d'aristocrates terriens, pendant un temps, ne cherchent pas à maîtriser le centre. Cherche plutôt à avoir accès à des espaces moins densément peuplés, moins pollués, moins insalubres, il y a moins de risques d'y attraper la peste, etc. Enfin, okay. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du 19e, ça se poursuit dans une certaine mesure. Hein. Il y a des extensions urbaines 19e qui peuvent se poursuivre. Ce qui apparaît très, très clairement au 19e, c'est avec l'haussmannisation à Paris. Alors, on n'a pas le baron Haussmann à Toulouse, mais on a quand même des éléments, des choses qui s'en rapprochent avec le percement de la rue Alsace, la rue de Metz, de la rue Ozène. C'est ce qui est représenté ici. Bon, là, qu'est-ce qu'on a ? Bon, là, on est chez nous, on est à deux pas, hein, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Ben, on a, je le disais tout à l'heure, un pouvoir économique qui, au 19e, croît. Parce que l'industrialisation fait qu'un certain nombre de personnes s'enrichissent, ont de plus en plus d'argent, parce que les banques d'affaires se développent. Et donc, même si par exemple Toulouse n'est pas une ville industrielle, c'est une ville dans laquelle un certain nombre de banquiers se sont enrichis, en lien avec l'industrie, notamment, en lien avec le commerce, avec les colonies par exemple, etc. etc. Et donc, ce qui marque bien cet enrichissement, c'est la volonté, si vous voulez, d'un certain nombre de catégories sociales, et en particulier de la bourgeoisie financière, industrielle, hein, sous Napoléon III, de restructurer un espace urbain dans lequel cette bourgeoisie-là ne se reconnaît pas. Et c'est en particulier, cette restructuration touche en particulier un certain nombre des espaces centraux des villes, ces espaces denses, insalubres, pas facilement lisibles d'un point de vue formel. Ces espaces dans lesquels vivent des catégories populaires qui ont quand même tendance assez souvent à se mobiliser, à faire des révolutions même de temps en temps à Paris. L'argument veut que une des raisons de l'haussmannisation, ben, consiste à rendre possible l'accès du centre-ville à la troupe. Hein. C'est rigolo. Et donc démolir des rues tortueuses, étroites, pour les remplacer par des grandes percées rectilignes, au fond, vous êtes un émeutier, vous voulez bloquer une rue, c'est plus facile si elle est étroite et sinueuse que si elle est rectiligne et très, très large. C'est évidemment pas la seule raison, mais tout ça pour dire qu'il y a des clins d'œil de l'histoire qui sont toujours intéressants, même si l'histoire ne se reproduit pas. Aujourd'hui, quand on va démolir des tours et des bars dans les quartiers dits en difficulté en France, une des justifications clairement écrites, c'est de supprimer tout ce qui peut ressembler à un tracé vière, sinueux, non rectiligne, fait de cul-de-sac, pour aller au contraire le remplacer par des grandes percées qui traversent les quartiers de part en part, et qui fait qu'évidemment, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas échapper à la police, on ne peut pas bloquer le quartier, etc. L'histoire se répète parfois. En tout cas, la volonté d'un certain nombre de groupes sociaux d'en maîtriser d'autres en utilisant la médiation de l'urbanisme, clairement, ça existe et ça se produit. Ça donne quoi ? Eh bien, ça donne, dans un certain nombre de parties des centres-villes, des percées, rectilignes, on supprime le bâti ancien, on casse. On va tout droit, on casse et on remplace par des immeubles bourgeois. Donc là, je ne vais pas faire trop long, hein, vous passez devant tous les jours. On casse par des immeubles bourgeois dans lesquels, que représentent ces immeubles si ce n'est le triomphe d'une économie industrielle, d'une économie commerciale, au détriment de ce qui prévalait. Je veux dire, l'économie qui est présente dans la ville ancienne, dans la ville médiévale, c'est une économie du petit commerce, de l'artisanat, du marché, de la production locale ou de l'échange à grande distance, mais en fait de manière toujours appuyée sur des petites échoppes, etc. À partir du 19e, l'économie qui triomphe, c'est l'économie d'échelle mondialisée, l'économie des compagnies, l'économie de l'industrie, de la production de masse, les grands magasins, etc. etc. Hein. On change de monde. L'industrialisation transforme la ville, la diffusion d'un commerce qui fonctionne différemment transforme l'espace urbain, le pouvoir économique marque de son emprise les espaces centraux des villes. Alors évidemment, aujourd'hui, avec le recul, on apprécie beaucoup toutes ces percées haussmanniennes. On dit « Oh, c'est très agréable, on va y faire de la piétonisation ». Et puis, toutes les images de Paris, ou une bonne partie des images de Paris, hormis quelques-unes, s'appuient beaucoup sur toutes ces artères haussmanniennes. En fait, c'est beau, l'artère haussmannienne, etc. C'est quand même aussi la vraie marque de l'imposition d'un pouvoir appuyé sur la bourgeoisie économique, une vraie marque de cette imposition à l'espace urbain. Il est évident que ça va avoir pour effet de commencer à faire changer quelque chose. C'est la place des catégories les moins favorisées dans les centres-villes. Tout ce dont on démolit là à la maison sont plutôt des gens relativement pauvres. Tout cela, ils s'en vont. Ils s'en vont où ? Ils s'en vont grossir les populations des faubourgs, en particulier. Peut-être certains s'en vont-ils un peu plus loin. En tout cas, le centre-ville commence à se transformer d'un espace dense, marqué par des relations sociales caractérisées par la proximité, l'aléatoire, le contact, le conflit. Hein ? On passe petit à petit à un espace qui se veut beaucoup plus rectiligne, beaucoup plus contrôlé, avec des usages beaucoup mieux définis. On va parader sur les grands boulevards. Les grands boulevards, ils sont propres, ils sont éclairés, ils sont contrôlés, ils sont maîtrisés. Hein ? Ce n'est plus les mêmes usages de la ville qui sont en place. La ville change dans son centre, la ville change dans ses périphéries. Hein ? Donc on a au 19e un double changement, un changement qui affecte la ville hors les murs, avec l'installation de nouvelles populations un peu partout, des murs qui petit à petit ne servent plus à rien et sont abandonnés, et puis on a un deuxième changement qui affecte le cœur, le centre, dans lequel on dit, bon, maintenant, ça y est, il faut adapter ce centre à la modernité, hein, la modernité du 19e, il faut percer, il faut que ce soit net, que ce soit propre, que ça symbolise et que ça permette de symboliser la richesse, la réussite d'un groupe social, qui est un groupe social dominant sous Napoléon, hein, qui est quand même la bourgeoisie enrichie dans l'industrie, dans le commerce. et dans la banque. Hein. Bon. Donc là, on est très clairement sur le début d'un changement urbain majeur. Jusque-là, et pendant 19 siècles ou 20 siècles, la ville, c'était plus ou moins toujours ça. À partir de là, ça ne va cesser de changer, ça ne va cesser de s'étaler, ça ne va cesser de se spécialiser, de se zoner, de s'organiser, de se planifier, de se contrôler. Ça ne va cesser de répartir de manière différenciée les catégories sociales, etc., etc., etc. On a une rupture qui est vraiment marquée dans la ville avec l'industrialisation et avec l'haussmannisation des centres-villes. Est-ce que jusqu'ici ça va ? Bon, c'est un peu d'histoire urbaine, c'est toujours ennuyeux, mais il faut poser ça quand même pour pouvoir ensuite parler de transformation des modes de vie et d'évolution des enjeux, sinon on pose pas le contexte. Quoi. Alors à partir de là, mais à partir du 19e, milieu 19e, fin 19e, s'enclenche dans la plupart des pays européens, et notamment à Toulouse, un phénomène que vous connaissez, enfin dont vous avez plus ou moins tous entendu parler, qui est le phénomène d'exode rural. Petit à petit, dans tous les pays du monde, en particulier les pays développés, s'est enclenché un phénomène de départ des campagnes, de départ des populations des campagnes, ces populations allant s'installer vers les villes, en particulier vers les villes les plus grandes. En France, jusqu'aux années 1930, la population qui vit dans les campagnes est plus nombreuse que la population qui vit dans les villes. D'accord ? C'est à partir des années 30 que l'équilibre s'inverse. À partir des années 30 et jusqu'à aujourd'hui, la population qui vit dans les villes est plus importante que la population qui vit dans les campagnes. Aujourd'hui, donc aux alentours, en 1930, on est à peu près à 50-50. Hein ? Aujourd'hui, la population urbaine en France, ça représente combien quel pourcentage de la population ? Vous avez une idée ? La population urbaine.
70. 60.
Un peu plus, non ? Beaucoup. Ça représente plus de 85% de la population française aujourd'hui. Hein ? Et à l'échelle mondiale, on est environ à 50% de la population mondiale qui est une population qui vit dans les villes. Donc ça, cette croissance des villes, vous comprenez bien que ça ne pouvait plus se passer dans l'enceinte, l'espace de la ville limitée par des enceintes. Tout ça explose. Hein ? Tout ça se traduit par de l'étalement urbain. Tout ça se traduit par, petit à petit, autour des principales voies de circulation, autour des principales voies de chemin de fer, de tramway, d'omnibus à chevaux, ça dépend des villes, mais petit à petit par des faubourgs qui ne cessent de se prolonger. Les faubourgs qui ne cessent de s'urbaniser. Alors d'abord, on urbanise le long des faubourgs, et puis on urbanise entre les faubourgs, et puis on prolonge un peu plus loin, et puis, la ville s'étale. Je vous ai amené là un jeu de cartes, bon, qui n'est pas en soi... Enfin, qui est... la dernière s'arrête à 99, parce qu'on n'a pas... On n'a pas de chiffres plus récents. Hein. Les statistiques du dernier recensement qui permettent de faire cette carte ne seront disponibles qu'en 2011. Donc en France, on aura fait comme exploit entre 99 et 2011 de ne pas être capable de mesurer l'évolution urbaine. Mais ceci dit, donc pour l'instant on est là. Ça montre quoi ? Ça montre, alors à partir de 1975, mais on pourrait faire repartir la carte avant, le processus serait le même. Ça montre la commune de Toulouse. Donc cette partie-là, hein, identique sur toutes les cartes, cette partie-là, elle est déjà bien plus vaste que celle-là. Déjà bien plus vaste. Regardez comment, petit à petit, l'urbanisation, en fait, ce que montre cette carte, c'est l'avancement de l'urbanisation. Au fond, l'urbanisation avance petit à petit. Ici, on a à peu près une cinquantaine de communes. Donc en 75, on peut considérer qu'il y a une cinquantaine de communes, 50-60 communes, qui, autour de Toulouse, hein, ont été progressivement urbanisées. Donc, la ville de Toulouse, si on peut dire, l'agglomération de Toulouse, c'est 50 à 60 communes.
Excusez-moi, oui. Vous pouvez par exemple prendre un exemple, juste pour voir après...
Donner des noms de communes.
Ouais, par exemple, enfin, c'était plus excentré que le faubourg encore ou
Bien sûr, bien plus excentré que le faubourg. Si vous voulez, ce trait-là hein, représente à peu près la rocade.
D'accord.
Ok, on est d'accord. Ce trait-là, c'est à peu près la rocade.
Ça veut dire qu'il y a Balma.
Donc ça veut dire que là, vous mettez Blagnac, Colomiers, Ramonville, Castanet, mais vous mettez bien d'autres communes.
Déjà en 75.
Déjà en 75. Hein? 82, 90. Et en 99, on était à peu près à 350 communes dont on considère, dont l'INSEE, l'Institut National des Statistiques et des Études Économiques, considère en 99 qu'il y a à peu près 350 communes qui constituent l'aire urbaine de Toulouse.
Et ça veut dire quoi? C'est urbanisé, ça veut dire quoi finalement? C'est quoi les...
J'allais y venir. N'oubliez pas le titre. De la ville à l'urbain. Là, ici, là, là, j'ai dit, quand on dit, on sait ce que c'est, qu'est-ce que c'est Toulouse? C'est ça. Qu'est-ce que c'est la ville? C'est ça. Là, quand en 99, on dit... L'aire urbaine de Toulouse, c'est 350 communes. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui a changé? Mais qu'est-ce qui a changé? C'est qu'évidemment, la ville telle qu'elle était conçue là, là, ici, même là d'ailleurs, c'est évidemment pas de, on parle évidemment pas de ça. Hein? On ne dit pas évidemment qu'à 35 km de Toulouse, entre Toulouse et 35 km autour, ou 40 km autour, on a une sorte d'urbanisation totale, complète, parfaite, dense. Non, bien sûr que non. Et c'est là qu'on commence à s'interroger. C'est là que ça commence à devenir plus intéressant, à mon sens. Parce que c'est là qu'on se dit, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait qu'en 99, on peut dire 350 communes autour de Toulouse appartiennent à ce qu'on appelle une aire urbaine?
350,
ça c'est 99. Aujourd'hui, on est à peu près à 400. Et aujourd'hui, l'aire urbaine de Toulouse, pour ceux qui connaissent un peu la région ou qui veulent la découvrir, l'aire urbaine... Des communes, hein?
Des communes. Estimer ville, un certain nombre, les communes comportant un certain nombre, au-dessus d'un certain nombre d'habitants.
Oui, l'INSEE considère qu'en France, on parle d'une ville à partir de 2000 habitants, voilà. Ce qui est une hérésie, ça n'a pas trop de sens, mais c'est une définition statistique. Donc, l'important, c'est de dire 350 communes. 350 territoires. Si vous voulez, on peut prendre le rayon. Ça va mieux. Là, on est à 40 km à peu près. Si on trace un cercle, c'est à peu près 40 km de rayon autour de Toulouse. Okay.
Toulouse, c'est une des villes les plus étendues de France.
En plus.
Plus Paris.
Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on pense, enfin, on ne sait pas, on fait des suppositions puisqu'on n'a pas les chiffres. Mais qu'en 2011, l'aire urbaine de Toulouse englobera quasiment Montauban. Mais de quoi parle-t-on? Mais de quoi parle-t-on du coup? Et c'est là que là.
D'une aire habitable,
de quoi parle-t-on? Alors d'une aire habitable, de quoi parle-t-on? À votre avis, de quoi parle-t-on quand on dit, voilà, aujourd'hui la ville, quand on dit 85% de la population urbaine, de la population française vit en ville, on parle de ce type de découpage.
Hein? C'est rapport à la surface construite juste, que c'est déclaré.
Pas vraiment en fait. Cette carte, je vais vous expliquer comment elle a été faite rapidement. Cette carte, elle est faite à partir de. Sont représentées comme des communes urbaines, sur cette carte, toutes les communes dont 40% de la population au moins, 40% de la population active au moins, travaille dans le pôle urbain de Toulouse. C'est-à-dire Toulouse ou les communes de la première couronne.
Voilà. C'est-à-dire le pôle urbain.
Le pôle urbain, l'unité urbaine, plus exactement, c'est la partie, si vous voulez, la plus agglomérée, le cœur.
Donc moins de 40%. Donc.
Est-ce que c'est ce qu'on a aujourd'hui?
Non, pas tout à fait. Ça, c'est autre chose. Mais j'y viendrai tout à l'heure, notamment dans la partie enjeu politique. Donc, je répète. Sont représentées là comme des communes urbaines, toutes les communes dans lesquelles 40% au moins de la population active travaille dans l'unité urbaine de Toulouse. Donc là, on ne s'est pas du tout basé sur les formes urbaines. Qu'il y ait une sorte de continuité bâtie entre ces communes ou qu'il n'y en ait pas, on s'en fiche, ça n'apparaît pas. On s'est basé sur un critère qui est discutable, évidemment. C'est les relations domicile-travail. C'est-à-dire, on s'est basé sur les relations domicile-travail, considérant que c'est aujourd'hui ce qui est structurant, fondateur, fondamental pour penser l'organisation de l'espace. Et puis parce qu'on s'est dit aussi que, derrière tout ça, il y avait des modes de vie. Et qu'une bonne partie des gens qui... Enfin, que quand on a une commune dans laquelle 40% au moins des actifs habitent à Toulouse, ça signifie certainement qu'on a une commune dans laquelle une bonne partie des comportements, des manières d'être, des manières d'habiter, des manières de se comporter, ont quelque chose comme à voir avec des comportements urbains. Mais qu'est-ce que c'est que des comportements urbains ? Quand on était à cette période-là, c'était pas trop compliqué de dire c'est quoi un comportement urbain ? Mais c'est l'inverse du comportement du rustre de la campagne. Vous savez, le rustre, celui qui habite à la campagne, vous comprenez, hein, on va caricaturer à l'extrême, à cette période. Prenez un rural, un campagnard, vous le mettez dans le métro à Toulouse, non, il n'y en a pas. Vous le faites venir en ville, et qu'est-ce qui se passe ? Il se retrouve dans un environnement qu'il ne maîtrise pas, dans lequel il y a beaucoup de gens, ça bouge de partout, il y a des chariots, des charrettes, des marchés, des gens du monde entier. Il est perdu. Il sort d'un environnement qui ne lui est pas familier parce qu'à cette période-là, on bouge très peu. Les mobilités ne sont pas importantes. On quitte son village trois fois dans sa vie. Là, à cette période-là, qu'est-ce qui a changé ? Ben, ce qui a changé, c'est qu'il y a eu une révolution, qui est la révolution des mobilités. À cette période-là, une bonne partie des ménages des communes en question, ils ont deux voitures. Au minimum une. Ou s'ils n'ont pas de voiture, ils prennent les transports en commun. Non, pas à Toulouse. Ça ne marche pas. En tout cas, ils se déplacent. Ils se déplacent beaucoup. Et aujourd'hui, dans toutes les grandes villes du monde, vraiment, une des caractéristiques des comportements urbains, c'est bien cette grande capacité, cette grande facilité à se déplacer. En métro, en train, en voiture, peu importe comment. En tout cas, à se déplacer, à parcourir chaque jour des distances importantes, avec des temps de trajet importants. Mais ce faisant quoi ? Ben ce faisant, ça permet d'exporter en dehors de la ville des comportements, des manières d'être, de l'argent aussi. Je gagne de l'argent à Toulouse, j'habite à 50 km, je le dépense en partie à 50 km. Mais quand j'arrive à 50 km, j'ai envie de vivre, peut-être aussi en partie comme je vivais quand j'habitais à Toulouse, si tant est que j'y habitais un jour. Donc il y a une sorte de complexification des manières de vivre, des déplacements, des formes urbaines, qui fait qu'à cette période, on n'est plus capable de dire qu'est-ce qui fait la ville. Jusqu'ici, ce qui fait la ville, c'est la limite. C'est le mur, c'est la limite. À partir de là, on est dans un espace a priori ouvert. Complet, comme ça, complètement ouvert, franchissable. On est passé d'une ville de la limite à un espace urbain de la distance franchissable. Qu'est-ce qui s'est joué ? Qu'est-ce qui s'est joué dans ce passage de la ville à l'urbain ? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Parce que bon, au fond, la question des formes, après, très vite, on a fait le tour. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui s'est joué socialement, politiquement, intellectuellement, dans ce passage de la ville à l'urbain ? Et à mon sens, plein de choses qui permettent de comprendre un certain nombre d'évolutions sociales sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Mais là, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je vous dis qu'est-ce que c'est qu'un paysage urbain ? Qu'est-ce que c'est qu'un paysage urbain ? Vous me répondez quoi ? Vous me montrez quelle photo ? Si je vous dis, montrez-moi une photo, imaginez une photo d'un paysage urbain. Vous prenez une photo de où ? À Toulouse ou ailleurs ? Pêche David. Non, les collines, les coteaux de Pêche David. Pourquoi pas ? Parce que vous voulez m'embêter.
Non, vous m'avez dit d'où ?
J'attendais une photo. Imaginons, si je demande.
Quel côté de Pêche David ? Côté.
Côté AZF ? Côté
AZF ou côté.
Une photo de
Grand Gueuil.
Ah, ben.
Côté militaire ou l'explosion d'AZF ?
Non, mais si vous voulez, qu'est-ce qui fait un paysage urbain aujourd'hui ? A priori, le sens commun va dire, bon. Prendre une photo du plein centre-ville, voitures, Times Square, des voitures, un périph, de la pollution, etc.
Hein ?
Sens commun. Bon. Ou bien, qu'est-ce qui fait un paysage urbain ? Des tours, des bars, des grands immeubles hérités des années 60-70. comment Toulouse architecture 1945-1975. Non mais c'est ça, hein, c'est ça, il y a des belles expos extraordinaires avec des jolies photos de Jean Dieu Z. Mais pas que, hein, aussi, une mise en espace fabuleuse, etc.
Il te flatte.
C'est pour trouver des appuis dans l'auditoire. Du coup, voilà. Et pourtant, la ville, bien sûr, aujourd'hui, c'est là-dedans, il y a plein d'espaces verts, il y a des bois, il y a des rivières, il y a des collines, il y a des petites maisons, il y a plein de choses.
Des collines. Jamais à Vic-le-Hauzil. Ah,
ben non.
C'est quand même là où a commencé un petit peu Toulouse.
Donc, une des premières évolutions, une des premières choses qui se joue dans le passage de la ville à l'urbain, c'est cette transformation des formes urbaines, cette transformation des paysages. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui quand on dit qu'est-ce que la ville? Qu'est-ce qu'il faut retenir si on dit, mais quel paysage il faut? Est-ce qu'il faut être uniquement sur des représentations de la ville-centre? Est-ce qu'il faut être sur des représentations de la nature? Quand vous allez voir les habitants, les gens quand même aujourd'hui, enfin les gens tiennent des propos forcément hein, assez paradoxaux. D'un côté ils vous disent la ville, non mais la ville c'est un espace pollué, c'est du logement collectif, c'est des immeubles, c'est des transports en commun. Donc ils ont une capacité à montrer la ville et à la décrire de manière précise. Et à l'inverse, où voulez-vous habiter? Pour une bonne partie d'entre eux, une majorité, à la campagne. À la campagne, dans une petite maison, c'est le syndrome de la petite maison dans la prairie, quoi. À la campagne, dans une petite maison, avec un petit jardin, évidemment, pour recevoir mes amis, etc., etc. Mais en même temps, comment voulez-vous y vivre dans cette maison à la campagne? Ah ben, j'aimerais quand même bien que cette maison, elle soit pas trop loin d'un transport en commun, ou alors d'une sortie d'autoroute. En tout cas, d'un lieu dans lequel... Ah non, mais en tout cas, d'un lieu dans lequel je pourrais faire mes courses. En même temps, pas très loin de mon travail, en tout cas le moins loin possible. Si possible, j'aimerais bien quand même pouvoir faire du piano, une fois par semaine. Et puis, mes enfants, j'aimerais bien qu'ils puissent s'inscrire à des cours de judo. Ou mon mari faire de voilà. Hein. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les individus vous décrivent, d'un côté, une envie d'habiter à la campagne, en tout cas dans des paysages
verts,
naturalisés, hein, naturalisés, avec de la verdure en tout cas. Voilà. Et de l'autre côté, ils vous décrivent assez clairement des modes de vie qui sont des modes de vie quand même urbains. Parce qu'a priori, quand vous habitez à la campagne, si vous voulez vraiment habiter à la campagne, vous faites un trait sur un certain nombre de choses, vous renoncez à un certain nombre de choses. Vous savez que vous n'aurez pas accès facilement à un certain nombre de choses. C'est ce qui définit quand même une partie de la campagne. C'est un peu un endroit où il y a moins de choses parce que c'est moins dense que dans les villes. Et donc vous avez une difficulté aujourd'hui, enfin une difficulté, c'est de l'incohérence on peut dire dans les propos des individus. Le problème c'est que on n'a pas à juger de la cohérence des propos des gens. On a à les prendre pour ce qu'ils sont. Hein, moi, je ne suis pas un économiste qui dit, au fond, les individus, de toute façon, sont des individus rationnels hein, qui mesurent et qui organisent leur mode de vie en fonction d'une rationalité économique. Moi, je ne pense pas comme ça. Malheureusement, une bonne partie des politiques publiques, raisonnent comme ça. Raison sur un individu standard qui est l'individu l'homo economicus, quoi, celui qui... Hein. Mais les gens ne pensent pas comme ça, donc ils ont des contradictions. Une des contradictions, c'est je veux des formes urbaines naturelles, je veux des formes végétales le plus possible, je ne veux pas de vis-à-vis, je ne veux pas de densité, je veux maîtriser mon environnement, je veux être à distance, je veux être sur des espaces ouverts. Et ça ne va pas avec la ville. La ville, c'est la limite. C'est pas la maîtrise de la ville, c'est l'aléatoire hein, dans les relations aux autres. Quand vous sortez dans la rue, en ville, vous ne savez pas qui vous allez croiser. Vous pouvez croiser quelqu'un de super sympa. Vous pouvez croiser quelqu'un qui vient vous ennuyer. Quand vous sortez dans la rue à la campagne, soit vous croisez personne, soit vous croisez des gens que vous connaissez. Ça veut dire que vous maîtrisez. vous maîtrisez. Quand vous êtes en ville, vous ne maîtrisez pas. Alors la ville, c'est l'aléatoire accepté ou obligé, incontournable, le conflit, d'une certaine manière. La campagne, c'est l'inverse. Les gens veulent ça. La ville, c'est la limite, la fermeture, la clôture. La campagne, c'est l'ouverture. C'est pas de vis-à-vis. Qu'est-ce qui est le plus insupportable aujourd'hui? Avoir un vis-à-vis. Voilà, un vis-à-vis, vous vous rendez compte? Vivre avec quelqu'un. J'ouvre ma fenêtre et j'ai pas accès à des collines verdoyantes. Je vois pas le coucher de soleil sur la Garonne. Je ne vois pas, vous voyez. Je peux pas vivre sans ça. Bon. Bon. Et en même temps, les modes de vie sont très largement urbanisés. Très largement urbanisés. Des ménages qu'on peut rencontrer, qu'on a rencontrés nous dans des enquêtes, qui habitent à 30 km d'un côté de Toulouse. Je me souviens de ménages qui habitaient le Gers, si je ne me trompe pas, par là. Hein, donc qui habitaient vraiment par là. Avec tout le discours sur la campagne, la nature, etc., etc. Donc il y avait trois voitures. Il y avait trois voitures. Pourquoi est-ce que vous avez trois voitures? Parce que, bon, mon mari quand même travaille là. Moi, je travaille là-bas. Et ma fille qui fait de l'équitation fait ça, mais à Balma. C'est-à-dire, Balma, c'est l'autre côté. C'est-à-dire qu'au fond, c'est quoi? C'est des gens qui consomment, qui circulent, qui consomment de l'espace urbain, de la mobilité, du déplacement, qui sont sur des modes de vie typiquement consommateurs d'espace urbain. Mais en même temps, qui sont sur des manières de se penser, des manières de se représenter eux-mêmes dans l'espace, comme des gens qui vivent à la campagne. Et donc du coup, le passage de la ville à l'urbain, ça peut notamment, et notamment ça implique de repenser les rapports urbains, rural, ville, nature. Tout ça est beaucoup plus compliqué qu'à cette période, qu'à celle-là. Tout ça est mélangé. On peut être dans des territoires dits métropolitains, métropolisés, et être en fait au milieu de la nature. Hein, c'est pas contradictoire. Et pourtant, dans les représentations, ça met un peu des conflits quoi, dans notre état d'esprit. On ne comprend pas trop. Et ça met des vrais conflits aujourd'hui dans la manière d'organiser, de penser les territoires. Mais c'est pas normal. Vous savez, vous allez voir les élus, les maires, les gens qui sont dans toutes ces petites communes là, et qui disent, mais comment vous voulez qu'on fasse, nous? Ils veulent la campagne, la ville, on ne peut pas répondre à tout. Alors on fait un peu de ville, un peu de campagne, de la sous-ville. Là, il y a un premier questionnement. Non, mais il y a un vrai questionnement. C'est comment on caractérise ces modes de vie. Pendant longtemps, là-dedans, c'était l'urbanité. L'urbanité, la capacité à gérer l'aléatoire dans les contacts. La politesse, être urbain, des modes de vie urbains. C'est quoi? Être urbain, c'est avoir maîtrisé un certain nombre de codes sociaux qui permettent d'être à l'aise dans un bon nombre de situations. La campagne, c'est évidemment pas ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est du coup que l'urbanité? Où est l'urbanité aujourd'hui? Est-ce qu'elle est seulement au cœur des villes? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur des formes nouvelles d'urbanité? Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces formes? Là, il y a des questions complètement ouvertes aujourd'hui, des questions sur lesquelles on débat, des questions sur lesquelles chacun apporte sa représentation, sa pierre à l'édifice. Hein, et puis, il y a ceux qui disent ben, la ville est morte. Françoise Chouet, entre autres, en particulier, disent la ville est morte, c'est terminé. Il n'y a plus de ville, il n'y a que de l'espace urbain. Acceptons, faisons le deuil de la ville, mais en faisant le deuil de la ville, faisons aussi le deuil d'un certain type de relation sociale. Faisons le deuil d'une certaine manière d'organiser la société. Acceptons la fragmentation sociale. Acceptons le repli communautaire. Tout ça est hérité de la fin des villes. Acceptons-le parce que les villes sont mortes. Il y a même des gens qui vont plus loin. Il y a un géographe qui s'appelle Jacques Lévy et qui dit « Mais regardez, si on ne refait pas des villes denses, si on laisse comme ça les villes s'étaler, le malheur est à notre porte, le malheur politique en particulier. » Et il prend deux exemples, l'exemple de Johannesburg, ville de l'apartheid, de la fragmentation, de l'étalement, de la bagnole, des espaces naturels et urbanisés, et il l'oppose au modèle d'Amsterdam. le modèle de la ville dense, urbaine, ouverte, du vélo, etc., des relations sociales sympas, tout le monde est sympa à Amsterdam, etc. Et il dit, mais regardez, si vous opposez ces deux modèles, et que vous regardez en France, par exemple, après les élections de 2002, premier tour de la présidentielle, Jean-Marie Le Pen au second tour, l'extrême droite au second tour, si vous regardez qui a voté non au référendum européen sur le traité, machin, donc, où sont les gens en France qui ont peur de l'extérieur, qui ont peur de l'Europe, qui ont peur des étrangers, qui se replient sur eux-mêmes? Où sont-ils? Ils sont dans les territoires périurbains, ils sont autour des villes. Le mal est là, et derrière ce mal, il y a quoi? Il y a le fait que les gens ne vivent plus en ville, qui sont repliés, sont sur leur petit truc chez soi, là, comme ça, égoïstes, leur bagnole. Hein. Bon. Et puis, il y a toute une série d'autres chercheurs qui disent, mais... Ça, c'est vraiment des regards appliqués sur ces personnes, par des personnes qui vivent en centre-ville, parce qu'elles en ont les moyens, qui représentent au fond... enfin, c'est un regard de classe, pour employer un vocabulaire un peu daté. C'est un regard de classe. Hein. Bien sûr que dans le périurbain, se réinventent des manières de vivre, des formes d'urbanité, et des formes de ruralité d'ailleurs, des formes d'urbanité, des comportements nouveaux, des modes de socialisation différents, des pratiques et des usages de l'espace qui ne sont pas simplement guidés par le repli sur soi, par l'individualisme, par la consommation. Mais Jacques Lévy, encore faudrait-il que vous soyez allé voir le périurbain. Vous n'y êtes pas allé, vous avez regardé ça de loin, et donc là, on est entre nous, dans des petits débats universitaires, et puis on s'insulte un peu comme ça, par article interposé, j'ai raison, tu as tort, etc. Mais ça n'intéresse que nous, en fait. Fondamentalement, il y a ce débat. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ces espaces urbains étalés? Si vous voulez, on peut faire une pause.
Bah oui, je sais pas.
Ouais,
moi, ça me dirait... Vous voyez, manière que ça infuse un peu. Et puis, on vient après sur les modes de vie et les enjeux.
Si vous pouviez vivre les uns qui ont... Ouais, ça